Une bonne nouvelle d'après Marc. Lecture suivie de l'évangile de saint Marc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
La dernière personne que nous avons laissée derrière nous, à l'épisode précédent, c'est un aveugle qui n'est plus aveugle, qui ne savait pas qu'il n'était plus aveugle, et qui, se rendant compte qu'il n'est plus aveugle, se met à danser et à chanter sur le chemin qui deviendra le chemin de la croix pour celui qui vient de lui rendre la vue. Je vais vous rappeler que cet dernier épisode, un peu cocasse, a été précédé par deux autres qui ne le sont pas. L'ambition des fils de Zébédée, d'une part, et la crainte, la peur, l'angoisse totale qui a saisi le jeune homme riche de devoir tout abandonner pour le suivre. C'est nu qu'il faudra monter à Jérusalem, seul, mais décidé. Écoutons ce 9e épisode.
La montée est ardue de Jéricho à Jérusalem. Le chemin tortueux et encaissé, parfait pour les guet-apens et les embuscades. Ils étaient partis juste à la fin de la nuit pour n'être pas drossés par les coups de soleil. Ils arrivaient à la dernière butte, la ville n'était plus loin maintenant. Bientôt, les voilà sur les hauteurs de Bethphagée et de Béthanie au dernier col. Puis ce serait la descente vers la vallée du Cédron, par le mont des Oliviers. Jésus envoyait en avant les compagnons. « Allez jusqu'au village d'en face. Dès les premières maisons, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Amenez-le-moi. » Si on vous demande des explications, dites que le Seigneur en a besoin et qu'il le renverra ensuite. Tout se passe comme prévu, l'ânon attend près d'un portail, il le délie, on les interpelle, ils répondent, on les laisse aller et les voilà de retour auprès de Jésus. On jette quelques manteaux sur l'ânon en guise de sel. Jésus s'y assoit et on descend sur Jérusalem. Le long de la route, les passants entendent des caps comme un tapis et des branchages qu'ils ont coupés sur le bord. Devant, derrière, quelqu'un se met à crier « Hosanna, béni soit le nouveau règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Et tout le monde reprend. Une véritable haie d'honneur s'est formée sur le passage jusqu'au grand escalier qui mène au temple. Et Jésus entre aussi à Jérusalem, par le temple, et semble repérer les lieux. Pourtant, il ne s'y attarde pas, il est déjà tard. Il a fallu presque toute la journée pour monter la côte depuis Jéricho. Jésus emmène de nouveau toute la troupe sur les hauteurs de Béthanie, chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. Les douze se demandaient pourquoi tous ces mouvements. Le lendemain, ils redescendirent en ville. En chemin, Jésus ressentit un petit creux de loin et il aperçoit un figuier bien feuillu. Il s'en approche, sûr d'y trouver des fruits. Mais il ne voit que des feuilles. Ce n'est pas la saison des figues. Alors, en présence de ses compagnons, il apostrophe l'arbre. « Eh bien, plus personne ne mangera plus de tes figues !» Imaginez la tête des douze. Arrivé à Jérusalem, il se rend de suite au temple. À la vue des marchands et des clients, il entre dans une colère irrésistible. Il se met à expulser tout le monde, renverse les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de colombes et interdit qu'on transporte quoi que ce soit dans l'espace sacré. Sautant sur le socle d'une colonne, le voilà qui vocifère littéralement « La Bible dit, ma maison s'appelle maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait un repaire de trafiquants. Les prêtres et les scribes qui ne perdaient pas une parole cherchaient comment le perdre, mais ils craignaient la populace car tout le monde était accroché à ses lèvres. Tout le reste de la journée, ils s'évitèrent ou se traquèrent les uns les autres dès la première étoile. Jésus et sa troupe quittèrent de nouveau la ville. Prudence. Le lendemain matin, en reprenant la direction de la ville, ils virent que le pauvre figuier était desséché jusqu'à la racine. C'est Pierre qui prit le risque de le faire remarquer à Jésus. « Maître, tu as vu le figuier que tu as maudit? Il est complètement desséché. » « Croyez en Dieu, parce que, voyez-vous, si vous dites à cette montagne, « Arrache-toi d'ici et jette-toi dans la mer sans avoir de doute au cœur, mais en croyant fermement ce que vous dites. Eh bien, si vous croyez vraiment que cela va se réaliser, cela se réalise. » Voilà pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez dans la prière. Croyez fermement que vous l'avez déjà obtenu, et ce sera comme ça. Quand vous vous mettez en prière, pardonnez d'abord. Si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, de façon que Dieu lui aussi vous pardonne, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Pierre ne s'attendait pas à cette leçon. On continua d'avancer. Les voilà de nouveau à Jérusalem, dans le temple. Jésus arpentait le sanctuaire de long en large, comme on avance à un rendez-vous ou comme chez lui. Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens ne se font pas attendre. Ils se pressent et déjà de loin l'apostrophe. « De quelle autorité fais-tu ce que tu fais ?»« Moi aussi j'ai une question à vous poser, une seule. Répondez-moi et je vous dirai de quelle autorité j'agis comme j'agis. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?« Allez, j'attends. » Et ils se sont retirés un peu à l'écart pour concocter ensemble une réponse politique, car si nous disons du ciel, il va nous dire pourquoi alors n'avoir pas cru en lui. Si nous disons des hommes, craignons la foule, car tous tiennent que Jean est réellement un prophète. Ils reviennent vers Jésus et leur porte-parole déclare « Nous ne savons pas. Eh bien, moi non plus, je ne vous répondrai pas. » Loin de les planter là, il enchaîne sur un exemple. Eux voudraient partir, mais ils sont tellement curieux. C'est un homme qui plante une vigne, la clôture, y creuse un pressoir et y bâtit une tour. Puis, il la loue à des vignerons et part en voyage. À la vendange, il envoie au vigneron un de ses hommes pour percevoir ce qui lui revient. Mais les vignerons se saisissent de l'envoyé, le battent et le renvoient les mains vides. Le propriétaire leur envoie un autre qu'il blesse à la tête et après l'avoir insulté. Le maître en envoie un troisième, il le tue. Puis d'autres encore, qu'il frappe et massacre. Il ne lui reste plus que son fils unique. Et il le leur envoie en dernier. « Mon fils, ils le respecteront. » Mais les vignerons se concertent. « C'est l'héritier. Allons-y, tuons-le, et à nous l'héritage. » Il l'attrape, le tue et le jette hors du domaine. Jésus change alors de ton. Que fera le maître de la vigne? Il viendra exterminer ses vignerons assassins et confiera sa vigne à d'autres. Tout le monde attend la clé, tout en espérant n'avoir pas bien compris. Les 12 sont prêts à intervenir. Jésus les regarde, puis il reprend la parole. N'avez-vous pas lu quelque part dans la Bible, la pierre méprisée par les maçons est devenue pierre angulaire? Voilà ce que Dieu fait, et c'est merveilleux.
Ainsi, les trois premiers jours de la dernière semaine à Jérusalem sont déjà trois provocations, presque programmées, tant envers les hommes de Jérusalem, les gens du temple, la caste des prêtres, des scribes, des pharisiens, que la nature elle-même. C'est le fils de David qui entre à Jérusalem, sur un ânon, sans armes, sans hallebardes, sans armure, sans épée, sans bouclier. Le fils de David, Hosanna, vive notre roi David et son descendant. Mais il ne se doute pas de ce qui va passer. C'est d'abord la nature qui est soumise à son commandement, même si ça n'est pas la saison. Il faut obéir au créateur de la nature, et le figuier en pâtira. Et cette maison, il va falloir la nettoyer, comme Héraclès le fera pour les écuries d'Ogias. Il faut rendre propre et rendre à Yahvé ce qui est à Yahvé. Et le lendemain, c'est ce figuier que l'on rencontre et qui rappelle cette toute-puissance à laquelle toute créature doit être soumise. Et le lendemain, les voilà de nouveau dans le temple, répondant du tac au tac et piégeant les questionneurs. Non, moi non plus je ne répondrai pas, puisque vous ne prenez pas position sur le baptême de Jean. Jusqu'à cette dernière parabole, qui exclut tous ceux qui avaient la garde de la vigne, parce qu'ils n'ont pas respecté les engagements, parce qu'ils ont voulu voler l'héritage de Dieu, parce qu'ils ont massacré, assassiné les envoyés du Maître. Ces trois premiers jours sont l'exposé de ce qui va se passer dans les trois derniers, puisque aussi bien, tout est consommé, tout a été dit, ils n'ont plus qu'à faire. C'est ce que vont nous réserver les pages qui vont suivre. La dernière semaine de Jésus de Nazareth à Jérusalem.
C'était Une bonne nouvelle selon Marc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.